Il est 6h20, une grève a débuté hier soir dans plusieurs services d'urgence à Paris, un mouvement illimité pour dénoncer les conditions de travail des personnels, notamment des aides-soignants et des infirmières. Notre invité est un fin connaisseur des urgences. Bonjour Patrick Pelou.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Association des médecins urgentistes de France. Alors le stress, le manque de moyens, les problèmes d'effectifs, tout ça on le savait, c'est le quotidien des urgences depuis longtemps. La vraie nouveauté, c'est la violence ?
Oui, la violence et le ras-le-bol des personnels, c'est pour ça qu'on soutient cette mobilisation. Vous le constatez régulièrement, la violence est devenue à peu près quotidienne dans vos informations. Et bien évidemment, puisque les urgences sont le reflet de tout ce qui se passe au niveau de la société, la violence est arrivée dans les urgences au cours de ces dernières années. C'est insupportable de se faire insulter toute la journée. C'est insupportable de voir des gens qui n'ont envie de s'exprimer qu'en tapant sur les infirmières, les aides-soignants. C'est insupportable de voir des personnes qui ne savent pas boire le vendredi et le samedi soir et qui viennent aux urgences pour vous déverser toute leur haine de tout ce que vous représentez. C'est insupportable. Et donc le personnel en a ras-le-bol.
Et voilà. Ça arrive souvent, ça
Ah oui, ça arrive souvent. Ces violences, par exemple, il y a des observatoires qui ont été mis en place et qui ne croyaient pas aux premiers chiffres qui sont arrivés sur les actes de violence. D'ailleurs, moi, ce que je reproche un peu aux directions des hôpitaux, c'est que souvent les personnels se plaignent et demandent leur soutien pour déposer plainte. Et souvent, les directions freinent les plaintes pour essayer de pas montrer vraiment l'ampleur du problème de la violence. Mais nous avons un peuple qui est profondément violent et profondément irrespectueux. C'est ça la vérité.
C'est vraiment ça la cause principale ? Est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi avec un manque d'effectifs qui fait que les gens patientent longtemps, des heures et à un moment ça gâche ?
Alors, sur les causes, il y a aussi la violence institutionnelle qui est faite parce que, vous avez raison, nous manquons de personnel, nous manquons d'infirmières, d'aides-soignantes, brancardiers. On nous a dit de faire de plus en plus d'économies dans les hôpitaux, ce qui fait que y a un temps d'attente qui a augmenté. On a fermé trop de lits. On a fermé trop de lits, souvent par manque de personnel, ce qui fait que c'est une espèce de spirale sociale infernale qu'il y a dans les hôpitaux. Et c'est le personnel qui trinque, parce que le personnel est au front de l'arrivée de tous ces malades.
On peut attendre combien d'heures sur un brancard dans vos urgences ?
Très longtemps, vous en êtes fait aussi là l'écho avec différents faits divers. Ça pose problème, parce que si vous voulez, par exemple, si vous reprenez l'histoire de Larry Boisière avec cette pauvre dame qui est décédée sur un brancard en attendant, et personne s'est aperçu qu'elle attendait, c'est retombé et ça a été très vexant, et le personnel s'est senti meurtri et très marqué par cette affaire. Mais quand vous reprenez la source de ce problème, vous apercevez qu'en fait, vous avez des pouvoirs publics qui, au cours des années, nous ont pas écoutés, nous ont pas entendus. Et on laissait faire une situation de dégradation du service public.
Est-ce que le personnel est formé pour faire face à ces violences, qu'elles soient physiques ou verbales ?
Mais on est formé, oui, on sait que c'est violent les urgences, mais quand d'un coup vous vous faites traiter de raciste par un islamiste radical qui a estimé qu'il venait ici, il venait aux urgences pour s'exprimer et insulter tout le monde, vous n'êtes pas formé. Quand pendant la journée vous vous faites insulter par tous les noms que vous imaginez, en permanence, vous finissez la journée avec un ras-le-bol général. C'est ça qu'il faut entendre. C'est pour ça que les deux premières revendications qu'ils ont, le personnel, c'est deux revendications qui sont intimement liées. Il faut mettre du personnel au niveau des urgences. Maintenant, il y a d'autres causes pour éviter justement cette saturation des urgences. Bien sûr, on a déstabilisé tout le système de soins et les urgences sont devenues c'est devenu la valeur d'ajustement de tout le dysfonctionnement du système de santé, mais aussi de tout le dysfonctionnement du système social.
Les urgences, c'est vraiment le premier maillon de la chaîne, c'est ce qui est en première ligne.
Voilà, et puis les pouvoirs publics, ils se lavent les mains à chaque fois, ils vous disent « allez aux urgences », c'est facile.
Quand on parle des urgences, là, c'est spécifique, les problèmes que vous soulignez, c'est spécifique aux hôpitaux parisiens. Parce que pour le moment, le mouvement touche les hôpitaux parisiens.
Mais non.
Pourquoi
uniquement
les parisiens
Parce qu'il faut bien commencer.
D'accord.
Bon, ils commencent par là, et ça, c'est pour ça que moi, je les soutiens. Mais si Madame Buzyn se croit à l'abri d'un conflit national, elle se trompe. Il faut écouter leurs revendications. C'est pour ça que c'est important. Ce matin, c'est Martin Hirsch qui vient négocier. Mais je pense que derrière Martin Hirsch, il faut que ce soit l'agence régionale voilà, le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Il faut que ça soit le directeur de l'agence régionale de santé qui soit là, mais surtout que le gouvernement monte au créneau. Moi, je les mets en garde. C'est pas du tout une menace. C'est une certitude. Le mouvement peut devenir national.
Donc le problème vient à la fois de la direction de la PHV et directement du ministère de la Santé,
bien
deux.
Sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Vous savez ce qui se passe quand on ferme un hôpital et quand vous, d'un coup, vous voulez reconstruire un hôpital en France? Eh bien, à chaque fois, vous avez une commission qui dépend de Bercy qui vous dit obligatoirement vous fermez 30% des lits. Donc au fur et à mesure, on nous ferme de plus en plus de lits et donc du coup les gens attendent de plus en plus aux urgences. Voilà. Quand vous attendez aux urgences, ce n'est pas de la faute du personnel. Certes, il y a des organisations qu'il faut revoir, j'en suis certain, je le reconnais, d'accord. Mais c'est aussi la faute des pouvoirs publics qui ont fermé trop de lits d'hospitalisation.
Et là vous dites quoi? Les urgences sont à l'os, on peut plus économiser, c'est fini?
On peut plus économiser. C'est pour ça si vous voulez, ce personnel qui réclame une prime, il faut l'entendre.
C'est une prime de combien?
De 300 euros. Moi, je pense qu'ils ont raison. Parce que comme vous avez une spécificité d'infirmière de bloc opératoire, d'infirmière anesthésiste, il faut reconnaître une spécificité d'infirmière aux urgences. Parce qu'il y a une pénibilité particulière.
300 euros net par mois.
Oui.
Par mois. Et pour le moment, le gouvernement dit non. C'est ça? Ou il n'y a pas de réponse encore?
Ils vont dire non. Mais à force de dire non sur des personnels, quand vous gagnez 1200 euros par mois, d'accord, et que vous vous faites insulter toute la journée, vous en avez ras-le-bol. Ils demandent une prime qui finalement compense un petit peu déjà les difficultés qu'ils ont pour vivre socialement et les difficultés qu'ils ont au travail. Donc c'est normal, faut qu'ils fassent gaffe parce que d'un coup les gilets jaunes peuvent très bien repartir à partir de l'hôpital. Hein.
Quel impact a cette grève sur le fonctionnement des hôpitaux, des urgences, sur la prise en charge des patients?
Ça c'est le problème, on peut pas laisser mourir les gens. Bon, et puis les personnels des urgences, c'est des gens qui sont profondément humanistes. Donc, vous pouvez pas faire grève et poser votre blouse et vous en aller. Donc, d'un coup, ils font des actes symboliques, ils font des piquets de grève, ils distribuent des tracts, ils mettent des bons.
Mettent un brassard.
C'est pas très visible, ils vont rien casser. D'accord? Donc, ça serait bien qu'on ait des gouvernements et des pouvoirs publics qui vous écoutent et qui écoutent la non-violence. Ça changerait.
Ça. Est-ce que c'est difficile de faire entendre sa colère quand la grève ne se voit pas?
C'est très difficile, mais je vous assure que pour qu'ils en soient arrivés à se mettre en grève comme ça, c'est que le ras-le-bol est total. Et c'est pour ça que je les soutiens. Ce qu'on va faire vis-à-vis des médecins cette semaine, c'est qu'on va essayer de les réunir. C'est toujours difficile de réunir des médecins, mais on va les réunir de manière à voir s'il faut pas soutenir et aller plus avant.
Pour le moment, je le disais, c'est vraiment les infirmières, les aides-soignants. Ouais. Mais vous, en tant que représentant donc de l'Association des médecins urgentistes de France, vous dites les médecins apportent leur soutien total.
Ah, mais total. Le soutien est total, et je pense qu'il faut aller plus loin si jamais ils sont pas entendus aujourd'hui dans leurs négociations.
Plus loin, ça pourrait être une grève également des médecins?
Oui,
c'est envisageable.
Bien sûr. On est tous dans le même bateau. Vous savez, quand vous êtes aux urgences, vous travaillez intimement avec les infirmières, les aides-soignants, et vous travaillez en équipe, en coopération, c'est ça qui est bien. Mais si on ne change pas profondément l'organisation des urgences, en créant par exemple, avant les urgences, des centres de santé un peu partout en France pour désengorger les urgences, on n'y arrivera pas.
Merci beaucoup.
On quitte le 20e siècle et qu'on rentre dans le 21e siècle.
Merci beaucoup Patrick Peloux d'être venu en direct. Merci. Ce matin sur France Inter. Vous êtes le président de l'Association des médecins urgentistes de France.